Bonjour Monsieur Thénoz.
Bonjour.
Arnaud Thénoz, vous êtes président délégué de la FNCOF, Fédération Nationale des Comités et organisateur de festivités. Alors j'ai envie de vous dire pour commencer, s'il y a bien une fédération nationale qui ne doit pas avoir le sourire depuis un an maintenant, c'est la vôtre.
Tout à fait. On garde quand même le sourire parce qu'on a bon espoir, mais on est en plein de grandes difficultés actuellement, notamment pour la reprise de nos activités festives, culturelles, qui sont lourdement impactées par la pandémie.
Oui, parce que vos activités, enfin les activités dont s'occupe la fédération, alors peut-être avec les restos, non, même à mon avis, ce sont les activités qui ont quasiment jamais rouvert depuis le mois de mars 2020.
Ici, on a pu reprendre une petite partie des activités festives l'été dernier, grâce à une baisse importante du taux de contamination qui était devenu quasiment à néant et qui est reparti à la hausse à l'automne dernier. Mais l'éclaircie nous avait permis de reprendre un petit peu nos activités avec des règles sanitaires strictes et des protocoles assez imposants qui ont découragé certains, mais qui ont permis quand même de la tenue de quelques festivités.
D'accord. Alors là, pour 2021... Bah, il y a quelques mois, on était relativement optimiste, avec un horizon du printemps. Là, aux dernières nouvelles, vu les chiffres et la reprise de l'épidémie, j'imagine que vous avez dû réviser un petit peu vos plans.
On est toujours optimiste. On sait que nous avons 4 ou 5 semaines devant nous assez compliquées à passer, mais nous pouvons espérer une reprise pour l'été. D'une partie des festivités, alors certes, il va falloir qu'on revoie les protocoles sanitaires et qu'on adapte nos organisations festives pour les proposer au public dans la sécurité optimum. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il faut être optimiste et je pense qu'on pourra reprendre certaines choses.
Vous êtes plutôt optimiste. Bah, c'est bien, il faut avoir de l'espoir et puis envisager l'avenir de façon la plus positive possible. Mais vos membres, la Fédération Nationale des Comités et organisateurs de festivités, je ne suis pas sûr qu'ils aient tant le moral que ça.
Alors, il est vrai, on a fait une enquête avec notre partenaire, la COFAC, la Coordination des Fédérations de la Culture, qui a mesuré l'état d'esprit des organisateurs de festivités et plus largement des dirigeants associatifs culturels, qui démontre que 83% d'entre eux ne sont pas aujourd'hui, se sentent pas soutenus par les pouvoirs publics et ont le moral dans les chaussettes.
Justement, les comités et organisateurs de festivités, moi j'ai tendance à penser, alors caricature, et puis n'hésitez pas à compléter. Bon, c'est quoi? C'est tout ce qui organise des fêtes de village, grosso modo, dans les zones rurales?
C'est ça. Ce sont les comités des fêtes, comités d'animation, mais aussi plus largement des associations qui mettent en valeur le patrimoine culturel existant et les traditions. On voit bien dans le sud de la France, notamment la tradition des fêtes votives qui est très marquant en période estivale notamment, et nous aidons toutes ces structures à valoriser, à défendre et à sauvegarder tout ce patrimoine-là.
Alors vous parlez du sud de la France parce que la FNCOF est basée à Toulouse. Mais par exemple, sur l'ensemble de la France, vous avez à peu près combien de membres? C'est important, hein, tout ce qui est comité des fêtes.
C'est ça, nous fédérons 2800 structures aujourd'hui sur 25 000 comités des fêtes actifs recensés, ce qui représente un peu plus de 10%. Il est vrai que c'est compliqué, on a un manque de notoriété et on essaye de se faire connaître petit à petit pour aider les responsables bénévoles à être guidés, accompagnés, formés dans la gestion de leur association. Et aujourd'hui, par exemple, la crise de la pandémie a été positive pour nous puisqu'on a eu une augmentation de 400 adhérents en 2020. Malgré la crise, parce que les gens ont eu besoin des informations que nous avons diffusées et des conseils que l'on peut leur donner.
Alors justement, on va en parler, mais un petit mot, si vous êtes sur le sud de la France, à Toulouse, c'est parce que il y a plus de comités des fêtes, d'organisations de festivités de ce style-là dans notre région qu'ailleurs en France ou pas du tout?
Pas du tout. Le siège a été installé à Toulouse pour des raisons historiques, peut-être. On voit que sur l'ensemble du territoire, nos adhérents sont à peu près disséminés de la même manière. Et les 25 000 comités des fêtes sur 35 000 communes en France, on voit bien que c'est vraiment très représentatif de l'ensemble du territoire.
Alors le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour tenter de limiter les dégâts, j'ai envie de dire, pour les restaurants, pour des commerces, même pour le secteur culturel d'une façon générale. Les comités des fêtes, je me demande si vous pesez suffisamment lourd, si on a pensé à vous.
Alors, on est une association d'une forme atypique, parce qu'on a effectivement du lien social important, qui est porté par nos adhérents, mais on a aussi un poids économique très considérable sur l'ensemble des festivités. En 2019, notamment, les 25 000 comités des fêtes pesaient 10 milliards d'euros dans l'économie locale. C'est pas négligeable. Et nos gouvernants ont pris en considération cet aspect d'atypicité. Et du coup, nous accompagnent, soit par le ministère de la Culture et le ministère de la Vie associative pour tout ce qui est d'ordre général au niveau associatif, mais aussi par le ministère de l'économie qui vient à la rescousse des associations qui ont engagé des fonds importants pour organiser des manifestations qui malheureusement ont été annulées, au même titre que les petites entreprises. Parce que l'investissement pour organiser une fête rayonne sur l'ensemble, sur à peu près 25 corps de métiers différents aujourd'hui. Et donc les annulations que nous pouvons porter, malheureusement, ont un impact drastique et non négligeable sur celles et ceux qui nous aident à faire nos fêtes, en premier lieu d'entre eux, les artistes. On voit bien notamment la difficulté qu'ont aujourd'hui les orchestres de bal à pouvoir envisager un avenir serein, d'autant que les textes sont très pessimistes aujourd'hui. On voit bien que la dernière chose qui sera réautorisée, c'est la danse. Eh oui. Et du coup, ça a un impact très très important sur leur activité à eux, notamment, mais pas que. On voit bien aussi les artificiers l'année dernière, 6% de chiffre d'affaires sur une année, c'est incroyable. Et on va assister malheureusement à des difficultés accrues en 2021, parce que même si on a bon espoir de reprendre des choses, on ne pourra pas tout reprendre. Et le peu qu'on pourra reprendre, ça sera drastique au niveau sanitaire et sécuritaire. Donc nous, FNCOF, on est là pour aider les organisateurs de festivités à essayer de faire des choses et à les accompagner, à transformer un certain nombre de contrats qui ont été signés vers des contrats mieux adaptés pour permettre justement à celles et ceux qui vivent de nos fêtes de pouvoir travailler.
Vous estimez que les mesures prises par le gouvernement dans votre secteur d'activité sont... Bon, ça pourrait toujours être mieux, mais enfin, sont satisfaisantes ou vous avez des demandes supplémentaires ?
C'est compliqué parce que, en fait, l'épidémie sans précédent à laquelle la période sans précédent que nous traversons nous oblige à être très prudents. Nous avons des dirigeants associatifs qui sont relativement âgés, en moyenne, ont plus de 65 ans, les présidents de comités de fête notamment, mais aussi les publics que nous drainons. Même si nous avons un public large qui va de 0 à 99 ans, on voit bien que nos activités publiques en plein air, notamment, même en salle, drainent du monde et de fait provoquent des risques de contagion. Et donc les décisions qui ont été prises sont dans l'ensemble, je veux dire, bien comprises, mais c'est surtout ce qu'il y en a du mal à faire comprendre, même nous à comprendre, c'est les dispositions qui sont mises en place pour assurer la sécurité du public qui, des fois, n'est pas du tout adapté au fonctionnement de nos structures. Ce qui les oblige à se remettre en cause considérablement au niveau de leur organisation, de leur logistique, de leur méthode, et des fois même d'annuler parce que l'impact d'un protocole sanitaire, des fois, est tellement drastique que ça vaut même pas le coup de faire la fête. Mais malheureusement, on est obligé de s'adapter. Heureusement, par contre, que le gouvernement est à l'écoute. Heureusement qu'il met en place un certain nombre de dispositifs. On a pu placer, et j'invite tous celles et ceux qui ont engagé des artistes intermittents, placer ces personnes en activité partielle, parce que on ne peut pas ne pas assumer nos responsabilités d'employeur, et nous ne pouvons pas non plus laisser un grand nombre de nos concitoyens qui vivent de nos fêtes sur le bord de la route. Donc voilà, il y a des dispositifs, c'est compliqué certaines fois, et la FNCOF, au sein de sa structure, met à disposition du personnel pour aider les organisateurs à remplir les démarches, à faire le nécessaire pour que toutes les aides puissent être activées, pour préserver l'intégrité du comité et de l'association qui organise, mais aussi pour préserver l'intégrité de celles et ceux qui animent nos fêtes.
Cette aide que vous apportez, on va en reparler, mais vous craignez pas quand même que, bon, un jour ou l'autre, on va quand même sortir de cette épidémie, hein, on espère le plus vite possible, mais un jour ou l'autre, ça devrait aller mieux, mais vous craignez pas que ici ou là, il y a des organisateurs et des organisations qui disparaissent complètement. Il y en a, moi, je suis en Aveyron. Là, c'est la deuxième année qu'ils annulent leur festival. Et déjà que les années d'avant, c'était compliqué financièrement de chaque année relancer un événement. Dans leur dernier post Facebook, eux-mêmes se posent la question de savoir s'il y aura une nouvelle édition.
Avant toute chose, il faut bien faire la part des choses entre le festival et les fêtes populaires. C'est deux choses bien distinctes, avec des modèles économiques complètement différents. Mais, bien évidemment, le risque qui peut arriver, le risque le plus important qui est devant nous, c'est, comme vous le dites, la disparition progressive d'un certain nombre de rencontres et de festivités. Pas forcément pour un problème économique, mais aussi pour un problème, ni plus ni moins, d'engagement associatif des personnes. Les gens se sentent aujourd'hui, et c'est une de nos craintes, bien plus que le problème économique pour nos associations. Je ne parle pas de la partie de celles et ceux qui travaillent pour nous, mais nous, en termes associatifs et bénévoles, notre plus grosse crainte aujourd'hui, c'est qu'un nombre important d'associations, de fait qu'ils ne puissent pas travailler et organiser quoi que ce soit depuis un an, voire peut-être un an et demi si on a des difficultés encore sur cet été, va faire en sorte que beaucoup vont se décourager, ne vont plus s'investir dans le fonctionnement de l'association et de fait vont faire disparaître tout un tas de petites manifestations, même de grandes, qui aujourd'hui sont l'image des départements, sont l'image des communes dans lesquelles ils sont organisés. Et ça met aussi en péril, pour certains, la sauvegarde d'un patrimoine ancestral. On a des fêtes qui sont inscrites au patrimoine immatériel de l'humanité, qui sont sous la sellette aujourd'hui, parce que s'il n'y a personne pour organiser ces fêtes qui mettent en valeur ce patrimoine, eh bien, il peut disparaître, il peut ne plus être valorisé. Et c'est un des risques, et nous avons interpellé le Premier ministre la semaine dernière et la ministre de la vie associative, Madame Elahiri, sur ce problématique qui est bien au-delà d'une problématique purement économique.
Alors, vous avez parlé du rôle, de l'intérêt d'être membre, la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités. Donc, il y a tout l'aspect soutien juridique administratif.
Tout à fait. Alors, la première des choses, c'est qu'on a voulu protéger les dirigeants bénévoles dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous avions négocié avec un groupe d'assurance nationale la mise en application de la protection du dirigeant associatif dans l'adhésion qui est incluse et de la protection juridique. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas aujourd'hui, à un moment où nous traversons une crise très difficile et à la suite d'une crise de la vocation de bénévole, puisqu'on sait très bien qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent pas faire du bénévolat, mais prendre des responsabilités dans les associations. Il fallait protéger celles et ceux qui prennent le risque de gérer ces structures-là. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, nous travaillons pour des formations, pour des conseils, pour des accompagnements, proprement dit, pour que les personnes qui dirigent soient pas seules et puissent s'appuyer sur quelqu'un pour faire les démarches qu'ils doivent faire. Et puis, nous travaillons aussi à défendre les intérêts des organisateurs de fêtes au niveau des ministères. Je vous disais tout à l'heure, notre intégration dans la COFAC, Coordination des Fédérations de la Culture, fait que nous avons un lien direct avec les ministères avec lesquels nous discutons, travaillons, négocions. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons sur la validation de protocoles sanitaires pour pouvoir reprendre nos festivités dès que possible dans les conditions optimum par rapport aux prérogatives du gouvernement. Et nous faisons remonter tout un tas d'anomalies ou d'incohérences qui nous paraissent intéressante à lever parce que ça ne permet pas la continuité de l'organisation des festivités ou alors l'impact financier qui est lié est compliqué.
Par exemple,
on voit bien les festivals, par exemple, aujourd'hui on a vu que Madame la ministre de la Culture a annoncé que les festivals pourraient être envisagés avec une jauge de 5000 personnes, sans buvette, sans restauration. Or, nos festivités populaires ne peuvent pas appliquer ces règles-là. Pourquoi ? Parce que déjà rien que la buvette et la petite restauration, c'est 70% des recettes d'une manifestation aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comités des fêtes, pour seulement 21% d'entre eux en France sont subventionnés. C'est-à-dire que presque 80% travaillent en autofinancement. Et cet autofinancement est basé sur un modèle très simple. C'est les recettes liées généralement, soit au droit de rentrée quand il y a des spectacles importants, mais autrement, le plus simple, c'est les buvettes et la petite restauration ou les repas. Et sans ces dispositifs-là, les associations ne sont pas viables et les organisations ne peuvent pas s'organiser. Donc du coup, on travaille là-dessus pour que on puisse adapter les règles et faire en sorte que, oui, il faut qu'on fasse attention, oui, on doit appliquer des protocoles sanitaires, mais il faut que ça soit fait dans le bon sens et dans l'intérêt général. Et on ne peut pas appliquer, et on le crie haut et fort, parce que souvent il y a un amalgame là-dessus, c'est que une fête populaire, c'est pas un festival. Une fête populaire, elle a son modèle à elle-même, et elle fonctionne différemment d'un festival. Et peut-être que nous pourrons envisager, et nous travaillons là-dessus aussi, la transformation des bals qui sont animés par des orchestres en plutôt en spectacle avec du public assis, pour qu'on puisse au moins avoir une animation dans le village, avec une jauge adaptée à la taille du village dans lequel on est, bien entendu. 5000, c'est beaucoup pour certains villages, pas pour tous, parce que si vous êtes en bord de mer ou dans des zones très touristiques, on s'aperçoit bien que il peut y avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Je pense à Bayonne, aux fêtes de Bayonne, qui sont très très compromises à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il y a trop de public, entre guillemets.
Autre aspect pratique de la Fédération nationale des comités organisateurs de festivités, j'étais sur votre site internet là tout à l'heure, il y a un tableau qui nous récapitule un petit peu ce qui est autorisé, interdit, à moitié autorisé ou à moitié interdit. Et c'est vrai que c'est intéressant, puisque vu que ça change tous les trois jours.
Alors, l'objectif de ce tableau qui a été décrié par certains, c'est de donner de la visibilité à celles et ceux qui organisent. Et on a épluché texte par texte pour dire, à l'instant T, c'est-à-dire à la date où il est édité, quelles sont les manifestations que l'on peut organiser, sans tenir compte des arrêtés complémentaires imposés par les préfets, parce que vous savez que, je le rappelle encore une fois, le gouvernement a laissé l'autorité aux préfets quant à la gestion de cette crise, et donc les préfets peuvent, en fonction de leur problématique locale, rajouter des contraintes complémentaires. Mais ce tableau, c'est hors contrainte des préfets, hein, c'est un tableau qui est basé uniquement sur les textes qui ont été émis par l'État, qui nous donne un certain nombre de visibilités. Alors certes, il y a des choses qui sont envisageables aujourd'hui, comme les brocantes, etc. Mais il y a des choses où malheureusement, le texte dit que c'est interdit, c'est le cas des bals par exemple, mais on n'a aucune visibilité à ce jour, quand est-ce que nous pourrions reprendre. Et les autres manifestations où on indique le 1er juin de reprise, tout simplement parce que en fait, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire programmée. On n'est pas à l'abri, vu la détérioration sanitaire du pays en ce moment, on n'est pas à l'abri d'un report de cette date. Mais en tout cas, quand il a été édité à partir de textes existants. Et nous sommes largement remerciés par les organisateurs de fêtes, qu'ils soient d'ailleurs adhérents ou non à la FNCOF, puisqu'on parle d'intérêt général sur ce tableau. C'est qu'en publiant ce tableau, nous avons donné de la perspective. Et nous laissons à 4 mois de l'été la possibilité à celles et ceux qui avaient engagé des animations qui ne pourront probablement pas avoir lieu, de trouver des solutions avec les artistes pour les adapter au mieux, afin de garder le contrat qui a été signé et de permettre à celles et ceux qui étaient programmés de travailler.
Et pour ça, pour vous contacter, le mieux, c'est via le site internet ?
Alors, le site internet, tout à fait, www.fncof.com. Et nous avons aussi la cellule Covid qui avait été mise en place et qui fonctionne toujours pour poser les questions et permettre aux responsables associatifs d'avoir des réponses ou des conseils sur des organisations futures qu'ils veulent faire. C'est info-covid-19@fncof.com. Et là, généralement, on répond dans les 48 heures.
Un dernier mot, Monsieur Thénoz, président délégué du FNCOF, comme vous le dites vous, et je vais dire pareil. La visibilité, là, vous venez d'en parler. Bon, alors, grosso modo, là, le mois d'avril, il va commencer. Bon, c'est mort. Mois de mai, c'est mort. Mois de juin, c'est quoi un petit peu, vous votre, peut-être pas votre espoir, mais ce qui est prévu pour la reprise de la plus grande partie des activités, même de façon adaptée
Ça sera fin juin, début juillet, probablement, en étant large, parce que au vu de la dégradation sanitaire actuelle, on s'aperçoit que la date du 1er juin risque de bouger légèrement, mais on a quand même bon espoir que d'ici là, déjà le virus étant saisonnier, son action soit minimisée, et puis on compte aussi sur la vaccination, parce que c'est une solution aujourd'hui qui nous permettrait de sortir un petit peu de cette pandémie, c'est la vaccination de la population, et du coup, ça nous donnera plus de visibilité. Nous, on a une réunion ce matin, les ministères tablent sur après la première quinzaine de juin, donc vers le 15 juin, on aura de toute façon plus de visibilité dans les 3 semaines qui viennent. Donc je pense que le tableau que nous diffusons va être réadapté, réexpliqué. Et je rappelle quand même que nous faisons des communiqués réguliers, généralement une fois par semaine, dès qu'il y a des informations diffusées par le ministère. Et ces communiqués sont disponibles sur le site internet et sont ouverts à tout le monde pour comprendre les dernières décisions et donner les premières pistes de reprise possibles, en espérant que ça soit le plus vite possible. Voilà. Et parce qu'on en a tous, hein, nous, pour notre vie tous les jours, mais aussi nos artistes et tous nos prestataires qui attendent impatiemment de pouvoir retravailler.
J'imagine bien. Bon, bah, vivement l'été. Merci beaucoup, Arnaud Thénoz.
Merci à vous.
Bonne continuation.